Vous écoutez, on lit pour vous.
Racisme et préjugés, deux obstacles pour les travailleurs en restauration selon une étude. Un texte de Pierre-Olivier Nadeau avec les informations de Pratyush Dayal, paru le 7 août 2024 sur Ici Saskatchewan. Une nouvelle recherche en cours révèle que de nombreux gestionnaires, responsables de l'embauche dans le domaine de la restauration en Saskatchewan et en Ontario, ont des préjugés et des stéréotypes envers les candidatures de personnes non blanches qu'ils reçoivent. La race, le pays d'origine, le statut d'immigrant, l'autochtonie, le genre et l'apparence physique font partie des facteurs qui influenceront si, oui ou non, une personne peut décrocher un emploi, d'après cette étude à paraître dans la revue The Economic and Labor Relations Review. Andrew Stevens, professeur agrégé au département d'administration des affaires de l'Université de Regina, est co-auteur de l'étude à venir avec Catherine E. Connolly, professeur de recherche en comportement organisationnel à l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Le co-auteur, Andrew Stevens, souligne qu'il a d'abord constaté ce préjugé chez ses étudiants à l'université. Les personnes avec un nom qui n'a pas une sonorité blanche se voyaient couramment refuser des postes de débutants, constate-t-il. L'étude s'est penchée sur 92 personnes de 2021 à 2022. Des entretiens ont été réalisés avec des propriétaires d'entreprises, des représentants d'agences de placement et de syndicats, des gestionnaires responsables de l'embauche et des personnes qui ont été employées dans l'industrie de la restauration en Saskatchewan et en Ontario. L'étude révèle que les personnes blanches sont les plus privilégiées par les employeurs de cette industrie. Citation : Nous avons constaté un grand écart sur le nombre d'appels des candidats autochtones avec les mêmes compétences qu'une personne blanche en Saskatchewan. Fin de citation, mentionne Andrew Stevens. Ce racisme envers les personnes d'origine autochtone était bien plus ancré en Saskatchewan qu'il l'est en Ontario, a découvert l'étude. Citation : Il s'agit en majorité de stéréotypes et de préjugés qui compromettent les capacités d'une personne à obtenir un emploi en raison de son appartenance ethnique. Fin de citation, dit Andrew Stevens. L'étude constate également que les femmes ont plus de chances à être engagées, mais qu'elles sont en général moins bien payées que leurs confrères masculins. Certaines femmes n'étaient également pas embauchées si le gestionnaire considérait leur apparence physique moins attrayante à ses yeux, ajoute Andrew Stevens. Un besoin d'éducation. D'après M. Stevens, ces préjugés et stéréotypes doivent être désappris grâce à une meilleure éducation et à une prise de conscience du problème. En plus d'avoir des notions d'équité, de diversité et d'inclusion, les employeurs devraient reconnaître la lutte contre le racisme. Selon Andrew Stevens, la province devrait en faire plus pour s'attaquer à ce racisme. C'était « Racisme et préjugés, deux obstacles pour les travailleurs en restauration selon une étude ». Un texte de Pierre-Olivier Nadeau avec les informations de Pratyush Dayal, paru le 7 août 2024 sur Ici Saskatchewan.
Une récession, demandez aux jeunes, un texte de Stéphanie Gramont, paru le 10 août 2024 dans la presse. Dans bien des régions du monde, les jeunes sont plus heureux que leurs aînés. Après tout, ils ont la santé et les années devant eux. Mais au Canada, c'est totalement l'inverse. Chez nous, les jeunes sont moins heureux que les vieux. Beaucoup moins. Le fossé qui se creuse depuis 2010 est parmi les plus larges au monde, d'après le palmarès du World Happiness Report. Le Canada s'y classe en 8e position pour les 60 ans et plus, mais il glisse au 58e rang pour les jeunes de moins de 30 ans. Les jeunes ont-ils raison d'avoir le moral en récession? Quand on regarde le taux de chômage, oui. Les aides sont durement frappées par le ralentissement du marché du travail. Après la pandémie, cette génération née entre 1997 et 2012 a pu avoir l'impression que l'emploi était un droit acquis, tellement les employeurs manquaient de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les aides peinent à trouver du boulot, comme le confirment les chiffres dévoilés par Statistique Canada vendredi 9 août 2024. En juillet 2024, le taux de chômage a touché 14,2% des 15 à 24 ans, une augmentation de 4,9 points par rapport au creux de l'été 2022. Le taux de chômage a même atteint 21,3% pour les immigrants récents de 15 à 24 ans, un bond énorme de 14,2% depuis 2 ans. Le taux de chômage des jeunes a grimpé à une vitesse qu'on a seulement observée lors des dernières récessions, comme le font ressortir les économistes de la Banque nationale dans une étude spéciale. Que se passe-t-il donc? Ceux qui tentent d'entrer sur le marché du travail sont victimes d'un gel d'embauche. Mais les difficultés actuelles des chercheurs d'emploi pourraient être le canari dans la mine. Les postes vacants ont fondu dans les entreprises et plusieurs secteurs ont des surplus d'effectifs. Alors il ne serait pas surprenant que des mises à pied finissent par toucher l'ensemble de la population. Mais revenons aux jeunes. Certains diront qu'ils écopent toujours davantage lorsque le marché du travail se resserre. Oui, mais jamais autant qu'aujourd'hui, expliquent les économistes de la Banque royale dans une récente balado-diffusion. En fait, 80% de la détérioration du taux de chômage de l'ensemble de la population a été absorbée par les jeunes de moins de 35 ans. C'est démesuré. Lors de la crise du crédit de 2008 et de la récession du début des années 1990, les jeunes avaient ramassé 50 à 60% des dégâts. La situation est d'autant plus grave que les jeunes risquent de subir des conséquences à long terme sur leur carrière. L'histoire montre que ceux qui décrochent un diplôme lorsque le marché du travail est pénible ont plus de mal à gravir les échelons et peuvent traîner un écart salarial pendant 10 ans, selon la Banque TD. Rien pour réduire les iniquités intergénérationnelles. Rien pour améliorer la situation financière des jeunes. Déjà, l'inflation les touche plus durement, car une proportion plus importante de leurs dépenses est consacrée aux biens essentiels comme le logement et l'alimentation, qui ont connu des hausses de prix plus prononcées, indique le Mouvement des Jardins dans une série d'études sur la jeunesse. Et bonne chance pour acheter une maison. Le marché immobilier n'a jamais été aussi peu abordable depuis les années 1980, quoique la baisse des taux d'intérêt donne un peu d'espoir. On le voit, les jeunes sont coincés. Dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a bien tenté de rétablir l'équité intergénérationnelle et de séduire les jeunes qui l'ont porté au pouvoir en 2015, mais qui sont en train de migrer vers le Parti conservateur. Ottawa a débloqué des milliards pour stimuler la construction de maisons. Fort bien, mais il faudra des années pour ramener l'immobilier sur terre. Entre-temps, il faut ralentir la croissance de la population, qui a gonflé de 1,3 million de personnes en 2023, l'accroissement le plus rapide, plus 3,2% depuis 1957. Le gouvernement fédéral s'est engagé à réduire l'immigration temporaire. Une bonne chose. On ne rend service à personne si les jeunes et les immigrants ne parviennent pas à se trouver un toit et un emploi. Que peut-on faire de plus pour les jeunes? Prendre les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, car la crise climatique hypothèque leur avenir. Investir pour redresser la productivité du Canada afin de propulser le niveau de vie des générations futures. S'assurer que les jeunes aient la formation nécessaire pour profiter des avancées de l'intelligence artificielle plutôt que d'en subir les contre-coups. Garder nos finances publiques en ordre et s'attaquer au déficit de maintien des infrastructures publiques qui constitue une dette cachée qu'on lègue à nos enfants. Peu importe le moyen, l'équité intergénérationnelle devrait être un phare qui guide toutes nos politiques publiques. C'était « Une récession, demandée aux jeunes », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 10 août 2024 dans La Presse.
Le silence de MacPie, un texte de Monique Durand, paru le 20 juillet 2024 dans Le Devoir. Le silence est devenu monnaie rare. Le bruit partout nous mène. Au gré de ses chemins récents, notre collaboratrice Monique Durand nous entraîne dans les bruissements du silence, un baume pour nos corps et nos esprits en ces temps tapageurs, un bien commun à chérir et à protéger. Il a les yeux du silence qui l'entoure, des yeux clairs comme les rivières du Nord qu'il chevauche. Sa maison en bardeaux de cèdre ronronne comme un gros chat recroquevillé autour d'un énorme poêle à bois. Il fait bon chez lui. Lui, c'est Gabriel Rondeau, 25 ans, cheveux pâles tirés par un chignon qui lui donne une tête buissonnante comme le sommet d'une épinette noire. Élevé sur le plateau Mont-Royal, Gabriel s'est découvert un cœur de coureur des bois et d'aventurier dans un pays d'eau vive, de pierre et de sable. Il vit à MacPie, et oui, le MacPie de la rivière, ce cours d'eau de la côte nord qui prend sa source au Labrador et court vers le sud sur 290 kilomètres jusqu'au golfe du Saint-Laurent. La célèbre rivière MacPie, dont la réputation transcende nos frontières depuis qu'en février 2021, la MRC de la Maingonie et le Conseil des Innus d'Equanichit Maingon lui ont accordé le statut de personnalité juridique dans le but de la protéger des appétits d'Hydro-Québec en hydroélectricité et de permettre aux cours d'eau d'intenter des actions en justice. Une première mondiale. Le comédien Roy Dupuis, cofondateur de la Fondation Rivière, est le visage connu de ceux et celles qui s'opposent au harnachement de cette puissante voie d'eau. MacPie, c'est aussi un village, un micro-village, 50 habitants l'hiver, 100 l'été. Un secret bien gardé, levé entre les bras d'une large baie battue par les vents du golfe. Il faut quitter la route principale, la 138, pour découvrir cette splendeur loin du monde et du bruit. Le mot MacPie serait le nom anglais de la pie bavarde, au pays du silence. D'ailleurs, il a beau habiter le silence, Gabriel est un verbomoteur. Y aurait-il là un jeu des vases communicants? Dans la vie, oui, je parle. Dans la forêt, non. Il m'offre un thé. Je mène ici la vie qui va avec la vue, où la parole est au vent, au large et au bois, et l'espace, un silence prolongé, écrit le Québécois Pierre Perrault dans « Tout-Île », un village un peu à part. Sa voisine, Lola Lebrasseur. Le curé s'est trompé. « Je devais m'appeler Léona », me dit-elle en riant. Elle est native de MacPie. Elle a fait carrière à Montréal comme directrice de la francisation des immigrants à la FTQ et a décidé de revenir vivre sa retraite là où elle a vu le jour. Pas un centimètre de cette beauté, pas une once du silence qui règne autour de chez elle dont elle ne jouisse. Le silence ici est assourdissant. Il nous oblige à arrêter, à l'écouter. Il impose. Lola a le port souverain du paysage dont elle a fait sa demeure. Mais le silence n'est plus le même que celui de mon enfance, qui était traversé de cris joyeux d'enfants. Le village a drôlement changé. Aujourd'hui, les rouges-gorges ont remplacé les enfants. On sait peu que l'empire de la morue dominé par la Robin en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick, avec pour centre Passepébiac dans la baie des Chaleurs, essaima jusque sur la côte nord et, notamment, à MacPie, qui devint une petite capitale mauritière. La compagnie Robin, dont les propriétaires venaient de l'île de Jersey, régentait l'existence des pêcheurs grâce à un système de crédit par lequel ils étaient payés en nature, équipement, provisions, sel, ce qui les rendait dépendants et endettés. C'était le cercle infernal et permanent, une forme d'esclavagisme, m'avait décrit feu l'historien gaspésien Jules Bélanger. Des exploiteurs, fait simplement Lola. Magpie a toujours été un village un peu à part, relate-t-elle, qu'habitaient des gens au caractère bien trempé, fait en bois dur. L'abbé Victor Huard rapporte dans son journal de voyage « Labrador et Anticosti » publié en 1897 que ceux qu'on appelle alors les Paspébiac ont le sang à une température très élevée. Lola renchérit. Magpie se distinguait par la stature souvent imposante de ses résidents, par leur verbe haut et leur cerveau près de la calotte. Je regarde mon interlocutrice avec de grands yeux interrogateurs. Le cerveau près de la calotte? Il prenait vite les nerfs. Je m'esclaffe. Une sorte de renaissance. Elle raconte une scène désopilante où, en 1895, Magpie, qui compte alors 248 résidents, auxquels s'ajoutent 250 pêcheurs saisonniers du sud de la Gaspésie, reçoit en grande pompe la visite de Mgr Michel Thomas Labrecque en tournée pastorale sur la Côte-Nord. Le village revêt ses plus beaux atours, partout décorés. Hommes, femmes et enfants descendent sur la rive pour accueillir sa grandeur. Des coups de feu retentissent. C'était la coutume. Quand le prélat, longtemps attendu, arrive dans sa barque. Sur la grève, tout le monde était sur la brosse. Pouf Lola. Nouveaux éclats de rire. Reste que l'histoire de Magpie en est une douloureuse, enchaîne-t-elle. C'était un village pauvre et isolé, presque en servage, où la vie était dure. Il resta longtemps sans électricité, sans télévision, sans route pour le relier au reste du Québec, atteint par la douleur d'avoir perdu sa superbe de chef-lieu de la pêche sur la côte nord. Le petit barrage sur notre rivière Magpie, construit en 1961, éclairait les villages avoisinants, mais pas le nôtre, déplore Lola. On s'est toujours senti abandonné. Mais depuis quelques années, Magpie connaît une sorte de renaissance, même un certain engouement, dit Lola, avec l'arrivée de ceux et celles qu'elle appelle les snowbirds nordiques, qui achètent des maisons, les retapent et redonnent vie au village. Ils viennent passer ici la saison douce, ils aiment l'endroit pour son silence et son calme. Si le bureau de poste, l'école, le magasin général ont disparu, l'un après l'autre, dans le silence de l'histoire, reste l'église, construite en 1892, pas encore emportée. Lola, devenue conseillère municipale, et Gabriel, guide d'expédition pour Nauriac Aventure, vantant son coin de pays sur toutes les tribunes, veulent la sauver. De concert avec la municipalité, ils ont obtenu une subvention de Québec pour la réparer et lui redonner son lustre. En faire une salle communautaire où tout le monde pourrait se retrouver, qui accueillerait spectacles, événements, cinéma. J'y pénètre alors que dehors, le jour descend. Le silence est poignant comme l'odeur d'humidité qui imprègne ses murs. Ici, ce n'est pas l'humidité de la pierre, comme dans les vieux pays, mais l'humidité du bois. La statue de la Vierge côtoie un pied de micro. Un liquide nettoyant voisine le bénitier. Un petit orgue a été offert par une dame de Havre-Saint-Pierre. Un jubé à la balustrade de bois et de fer forgé surplombe la nef. Je reste de longs moments à regarder la mer à travers l'une des longues fenêtres en ogive, face au sud. Elle entre en son assourdi, éternel comme le temps. Je referme la porte du petit temple offert à l'immensité. Dehors, deux poubelles, du bois fondu, un garde-fou où est assis un petit garçon d'une dizaine d'années qui attend un copain, les yeux dans le vague. « Comment t'appelles-tu? »« Noé. »« à quoi rêves-tu, assis là, Noé? De faire le tour du monde? Je l'ai déjà fait. On est allé en Indonésie, en République tchèque, en Patagonie, et on a fait le tour de Terre-Neuve en bateau. Je dois avoir l'air éberlué. « Salut, » me dit-il. « Salut, » je fais. Quand je me retourne une dernière fois sur le village, la demi-lune perchée là-haut, l'ampoule nue au-dessus du portail de l'église et les lumières aux maisons font des lumignons dans le soir. Bien des choses ont changé à Macpaï et changeront encore, sauf le roulement des vagues et le ciel consumé de silence. C'était « Le silence de Macpaï », un texte de Monique Durand, paru le 20 juillet 2024 dans Le Devoir.
Une rentrée de rêve pour Ève-Marie Lortie. Une entrevue réalisée par Michel Lemieux, parue le 23 août 2024 dans la revue Virage. Cet automne, Ève-Marie Lortie réalise son rêve professionnel en succédant officiellement à Gino Chouinard à la barre de Salut Bonjour. Puisque son rôle de mère s'est transformé, la nouvelle quinquagénaire se sent plus prête que jamais à relever ce défi. C'était un objectif, admet-elle avec enthousiasme au sujet de son nouveau défi télévisuel. Je me disais qu'un jour, si c'était possible, j'allais lever la main. Gino aurait pu poursuivre son mandat pendant longtemps encore. Il a la cote d'amour du public et l'équipe l'adore. Mais à la minute où il a évoqué son départ, j'ai fait connaître mon intérêt. C'est ma Coupe Stanley. Cette consécration, c'est l'aboutissement d'un long parcours qui l'a mené à occuper tous les fauteuils et toutes les cases horaires, de LCN à TVA. Je suis la première femme à animer officiellement « Salut, bonjour » en semaine. Je suis touchée par cette marque de confiance. On aurait pu prendre le virage de la nouveauté, mais on a décidé de miser sur quelqu'un de la famille. Mettre la pédale au fond. Même si son horaire est plus chargé que jamais, le réveil matin sonne à 2h50 du lundi au vendredi, celle qui a animé « Salut, bonjour, week-end » pendant 12 ans se dit heureuse de pouvoir enfin profiter de ses fins de semaine. Le sacrifice des fins de semaine était énorme. Je suis tellement contente de les retrouver. Ne plus être la première à quitter les soupers d'amis ou de famille. Ne plus imposer que le repas se prenne à 18 heures. Par contre, le fait de travailler la fin de semaine m'a permis, pendant des années, d'être disponible comme maman. Mais maintenant, je suis à une étape de ma vie où je peux mettre la pédale au fond. Je suis au maximum de mes capacités, de mon énergie. Installée dans la région de Québec avec son conjoint, l'animatrice s'est offert un pied à terre à Montréal, où elle vit durant la semaine. Clarence, mon amour depuis plus de 16 ans, est le meilleur allié qui soit. À titre de jeune retraité, il peut décider s'il m'accompagne à Montréal ou non. Il a beaucoup souffert de ne pas avoir de fin de semaine avec sa blonde alors qu'il travaillait toute la semaine. Il est donc super content de mon nouvel horaire. Tout le monde le dit, la routine peut plomber un couple. Quand les bases sont solides, on peut faire bouger un peu les choses. Dans notre cas, les bases sont solides. Entre nous, il y a de l'admiration et du respect. Un vaisseau amiral. Son rôle de mère s'est aussi radicalement transformé ces dernières années. Sa fille de 21 ans, Corinne, a quitté le nid familial pour vivre et étudier à Sherbrooke tout en travaillant comme journaliste à la pige pour des salles de nouvelles de TVA. Il y a beaucoup d'admiration entre nous. Elle fait son chemin à son rythme. Elle a quitté la maison en 2020 après son secondaire. Moi, à son âge, mes parents se sont séparés. Je me suis retrouvée sans maison familiale et c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Je n'avais plus d'ancrage.
Je me suis toujours dit que, si c'était possible, j'allais garder une sorte de vaisseau amiral pour ma fille. C'est pour cette raison que nous conservons les lieux que nous possédons déjà, car ce sont des endroits où nous pouvons atterrir. Ambitieuse à sa manière, Ève-Marie Lortie a toujours voulu cette carrière qui est la sienne et elle y a consacré toutes ses énergies. Lorsque je suis devenue une mère monoparentale, ma fille allait avoir 4 ans. Malgré des horaires atypiques, je voulais poursuivre mon travail à Salut Bonjour. J'ai alors demandé de l'aide à des gardiennes, à ma mère. Cela m'a permis de continuer à m'épanouir au niveau professionnel. Est-ce que j'ai manqué des moments? Oui. Mais est-ce que j'ai été présente à d'autres moments? Oui. Je me rappelle ces drôles de regards qu'on me lançait quand on apprenait que je n'étais pas là pour le réveil et le déjeuner de ma fille. Cependant, je pouvais être présente pour faire un bricolage à l'école l'après-midi. J'ouvrais la porte à ma fille tous les jours. J'étais disponible pour aller au parc ou pour les devoirs. Est-ce que c'était parfait? Non, mais j'ai trouvé la paix à travers tout cela. Nouvelle quinquagénaire. Le 26 juillet dernier, Ève-Marie a célébré son 50e anniversaire. J'ai sous mes yeux des modèles de femmes qui me montrent à quel point la vie est belle en vieillissant. Je pense à ma garde rapprochée, ma grande sœur Manon, qui a 6 ans de plus que moi. Mon frère est en couple avec Julie, ma belle-sœur, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Christine Brouillet, que j'ai la chance d'avoir comme amie. Avoir 50 ans implique pour moi de mieux me connaître. Le regard des autres est moins pesant qu'à 20 ans. J'ai voulu faire ce métier parce qu'il y a eu Jeannette Bertrand, puis Claire Lamarche. Elles ont été des modèles pour moi. Le piège, c'est de rester ancré dans nos vieilles habitudes. Il faut rester ouvert à ce que la jeunesse a à nous proposer. Il faut prendre soin de soi pour conserver sa santé, mais sinon, l'âge n'est qu'un chiffre, conclut-elle. À 50 ans, je réalise mon rêve professionnel. Je suis heureuse. J'ai des amis. Je ne suis en brouille avec personne. Je suis épanouie, amoureuse. J'aborde donc cette étape avec maturité. Il faut que chaque journée compte. Mon père, qui est décédé en 2020, disait « Ne cours pas après le grand bonheur. Capture tous les petits bonheurs qui permettent de se mettre au lit heureux. » C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. C'était une rentrée de rêve pour Ève-Marie Lortie. Une entrevue réalisée par Michel Lemieux, parue le 23 août 2024 dans la revue Virage.